podcast.com. Essaye ça.
Le crachoir épisode 134, cause valable. On va vous expliquer pourquoi on appelle ça comme ça. Mais avant, comment vas-tu, Martin?
Ah, ça va bien. Écoute, grosse semaine encore une fois. C'est devenu une redondance consommée à chaque semaine, mais c'est ça pareil. Écoute, sur d'autres fronts, par exemple, hein, sur d'autres topos, sur d'autres sujets, évidemment qu'on a passé la semaine, plutôt les semaines électorales avec nos amis les Américains. Mais écoute, on n'est pas en manque de conflits et de rédemption de notre côté. Alors, j'ai été un peu comme tout le monde au-dessus le bout de ma chaise à regarder ça, le soap, un soap québécois digne de Fellini dans le cinéma vérité qui se déroule devant nos yeux. C'est fantastique.
C'est quasiment aussi bon que le soap américain là, qui joue cette ancienne Denial Trump. Là, c'est bon ça.
Oui, Denial, ben oui, absolument. Écoute, c'est pas le... Ce sera pas la thématique principale des actualités conspire, mais...
Mais on pourrait faire un lien en disant que si Donald Trump continue à faire des recours qui ne marchent pas, il pourrait finir par être déclaré plaideur quérulant.
Peut-être, parce que là, à date, les échecs judiciaires s'accumulent, en tout cas. Sans faire nécessairement de parallèle entre les deux sujets dont on parle à demi-mot, mais c'est ça. C'est que il se déroule actuellement deux sagas, une américaine, une québécoise, dont on ne peut pas... ne pas voir certaines ramifications, mais je pense qu'on en verra encore plus. C'est pour ça qu'on va prendre une petite pause là-dessus cette semaine. Je pense que quand tout sera vraiment officialisé, je pense qu'on pourra vraiment parler là, des ramifications que ça aura et de l'impact que ça aura, et plus particulièrement envers la Sainte Fondation.
Oh oui, qui est en chicane. Ça brasse. Les conspires sont en train de scinder, non pas en deux, mais en trois, quatre groupes. Mais il y en a deux particulièrement leaders très en vue qui parlent fort, puis qui récemment s'étaient chicanés, puis là, ils se seraient raccommodés, là.
Ben, c'est ça, en tout cas, tout semble l'indiquer, puis ce que je te propose qu'on fasse, Frank, là, partez pas en peur, je donnerai pas des dates puis des heures, là, on va y aller vraiment comme ils disent en anglais, broad strokes, là, à haute altitude, grand angle sur le déroulement de cette rixe qui semble s'être résorbée entre, bien sûr, notre ami Cheveux de Prince et Mayonnaise aux pommes.
Résorbée sur la place publique, là, ça, c'est...
En tout cas, écoute, il y a quand même des facteurs qui nous permettent de croire qu'il y a eu une trêve qui a été négociée. À tout le moins, on pourrait peut-être parler d'une trêve.
Ouais, disons, trêve plus que réconciliation.
C'est dur
à dire, c'est leur vie personnelle. On peut juger juste de ce qu'ils font publiquement, fait que c'est ce qu'on va faire.
Ouais, c'est ça. Écoute, moi, c'est l'impression que ça me donne. Ils vont évidemment dire qu'on est dans le champ, puis que, tu sais, ils chiquent plus à gainer, ils partent tout. Puis,
fait que. C'est l'amour vibratoire lumineux.
Oui, voilà. Fait que, Frank, on part ça demain. OK? Vous vous souvenez, il y a eu quelques vidéos qui provenaient de mayonnaise aux pommes. Pourquoi qu'on l'appelle mayonnaise aux pommes? C'est parce que mayo, c'est pas mal consacré. Et c'est un gestionnaire d'un verger. Alors, ça s'est créé de soi-même.
Et comme de la mayonnaise aux pommes serait, c'est de très mauvais goût.
Ben, écoute, je vais prendre ta parole là-dessus, mais je te donne suffisamment raison pour pouvoir t'affirmer sans aucun doute que j'y goûterais même pas. Voilà. Fait que je serais pas le cobaye de ce produit. Ceci dit, on commence avec le fameux vidéo, en fait, de Mayo, qu'on avait intitulé, nous, Le Verger de l'amour, et dans lequel, ben écoute, c'est là que le feu a été mis aux poudres. C'est-à-dire que là, ben écoute, c'est un call-out en bonne et due forme. Les initiatives judiciaires ne servent à rien. Ce gars-là ne sait pas gérer de l'argent. Il parle évidemment de Cheveux de Prince. Et tout ça, c'est pas une interprétation, by the way, c'est documenté. Là. Je ne sais pas si c'était encore sur Facebook, mais c'était du domaine public.
Oui, il a dit publiquement. Ses attaques contre Stéphane Blais ont été très, très claires et explicites.
Exact. Et je prends le soin de dire ça, Frank, parce que il n'y a pas de motivation d'appel à la haine en arrière de ça. Là. Ce sont des faits, ce ne sont pas des interprétations, ce sont ses mots.
C'est pas de la médisance et ni de la calomnie. Tu rapportes ses propos.
Exact, il n'y a même pas d'interprétation à la limite. Fait que là, ça part le bal, OK? Et après ça, s'en suivent une couple d'affaires. L'impression que j'ai, mon interprétation, c'était le fait que tout ça semblait avoir débuté dû au fait que le fameux Paul Hutoton de la Fondation Enfant Soleil s'est déroulé en même temps que une initiative d'appel à la liberté qui était le fameux sit-in devant Radio-Canada, dont on n'entend plus parler d'ailleurs, qui ne semble pas avoir porté ses fruits. C'est pour rester dans le domaine.
C'est parce que ça doit être un gros succès. Il va y avoir tellement de monde qui n'ont pas eu le temps d'en parler.
Ben, moi, tu sais, ce qui me permet de te dire que c'est un échec, c'est qu'il n'y en a pas de débat public. Alors, écoute, c'était ça la motivation principale. Ça, puis offrir du café aux gens pour venir échanger. Ça, je ne sais pas si ça a été un succès, mais de ce que j'ai pu voir, ça n'a pas l'air d'avoir scoré fort non plus. Donc, c'est mon interprétation. Tu sais, tout semble indiquer que ça a commencé de là. Tu sais, que là, ben, tu avais deux mouvements, puis ça a commencé à grenouiller aussi que Mario voulait diviser, puis que c'est un agent diviseur de division, puis toute la quête.
C'était les arguments de l'autre partie, là, de
Blé. Ouais, c'est ça. Fait que là, il commence à avoir une réplique. Et là, ben, écoute, on commence à parler de, il y a des gens qui tendent à vouloir diviser. Et là, on a une escalade, mon vieux. Là, ça part, OK? Cheveux de prince essaie toujours de take the high road, comme on dit en anglais, puis d'être plus le plus noble des deux en ne nommant pas l'autre personne. Oui,
c'est ça. The bigger man. Il essaie de prendre le haut du pavé. C'est sa tactique. Et puis, il prend toujours le haut du pavé moral, souvent en parlant d'amour fraternel puis d'affaires de même avant d'attaquer quelqu'un.
Exact. Mais là, ça commence. Le back and forth commence. Donc, tu as un premier vidéo, le verger de l'amour. Après ça, tu en as quelques autres. Tu as une invitation à un débat public sur Facebook avec des menaces, entre guillemets, d'exiger que ça se produise parce que c'est faisable d'exiger légalement un débat sur Facebook. Après ça, mon Frank, on a une invitation à un combat de boxe pour une œuvre de bienfaisance. Écoute, ça n'arrête plus.
Parce qu'ils ont fait ça en s'inspirant de Justin Trudeau puis moi qui s'appelle Brazo. Là.
Ben écoute, Brazo contre Trudeau, Mario Roy cite cet événement-là. Fait que c'est clair qu'il s'en est inspiré. Là, ils ont préféré une levée de fonds avec ça pour une œuvre de bienfaisance et patati et patata. Et là, ben ça continue, mais là, dans la foulée de tout ça, Frank, il se passe quoi? Il se passe le 3 novembre. Alors, on avait eu droit à un live, si tu te souviens bien, le vendredi d'avant, dans lequel on parlait de cette initiative-là. Trump va vous botter le cul, blablabla. Puis là, le 5 novembre, les commerçants, qu'ils soient essentiels ou non, on lance un mouvement avec la gang de Hugs Over Masks que vous ouvrez quand même, puis ça va être pas. Ça va être amarré ou secoué, admaré, d'un océan à l'autre. On ouvre pareil, puis toute la patente. Puis on n'a jamais, by the way, réentendu parler de cette affaire-là, de un. De deux, ben, c'est passé ce qu'on sait tous, qu'on ne reviendra pas à n'en plus finir, mais Biden. Et là, on arrive au 5 novembre, Frank. Et ça, c'est une date très importante, parce que le 5 novembre, c'est la date où a lieu le fameux conseil d'administration de la Fondation dans laquelle il présente les états financiers, très important le mot que je vais dire, intérimaire,
oui.
De la Fondation. Donc, dans un deuxième exercice de présentation des chiffres, bien que la Fondation ait quelque chose comme 6 mois d'existence. Et c'est là que je vais mettre un peu d'emphase, Frank. Moi, ça fait une quinzaine d'années que dans ma vie de citoyen, j'ai été impliqué dans différentes sortes d'organisations, que ce soit OSBL, que ce soit la Société de développement économique du Témiscamingue, un paquet d'affaires, des chambres de commerce, name it, OK? Et c'est la première fois de toute la quantité de conseils d'administration et ou Assemblée générale annuelle, au cours desquelles j'ai vu le début d'une telle réunion commencer par « on n'est pas des crosseurs, puis il y a du monde qui nous veut du mal ». Jamais vu ça avant de toute ma vie, là. Jamais. OK?
Fait que là, on n'est pas des crosseurs.
Ben, c'est pas comme ça que c'est dit, mais
oh, tu sais, je le sais, là.
pas verbatim, mais tu sais, l'exercice d'aujourd'hui, nommez-moi une autre fondation qui est sans but lucratif, qui a fait deux présentations de ses chiffres. Ben oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas besoin, eux autres, le monde les trosse. Puis,
parce qu'ils sont crédibles. Ils sont crédibles et dignes de confiance. Il n'y a, ben, a rien de fichy, ni de bizarre, puis encore moins de conspirationniste au Téléthon Enfant Soleil, mais au Polutoton Enfant Soleil.
Ah ben, écoute, puis ça, évidemment, s'accompagne de beaucoup de pression, Frank, de gens qui posent des questions, de gens qui veulent...
Qu'est-ce qui est devenu notre argent?
Ben voilà, c'est pas mal basic et très légitime, à mon très humble avis. Fait que là, ben, t'as ça, et dans la deuxième partie, après, là, on est bon, on est beau, on est fin, il y a évidemment l'allusion au fait que des agents de division et tout ça, et le, bien que son nom ne soit jamais mentionné, on fait allusion, bien sûr, voyons, excusez, c'est le café, on fait allusion à Maillot, évidemment, et à tel point que Maillot relance suite à cette présentation-là en disant « C'est bien de moi qui parle, puis je peux vous en compter plein des affaires, puis quand j'étais candidat à citoyen au pouvoir, et patati et patata. » C'est pas fini, Frank. Ça, c'est la semaine 1. La semaine 2, maintenant. Okay. Dans la semaine 2.
Oui.
Mais là, il y a eu la première initiative, en fait, la première annonce de Mario Roy qui faisait état du fait qu'ils avaient l'intention de bloquer un pont qui menait à la rive sud, ce sont ses mots, un pont qui menait à la rive sud de Montréal.
Est-ce que c'était le pont Laviolet?
Ils l'ont pas mentionné, c'était une surprise. Excuse, c'était une surprise.
Okay, une surprise. Moi, j'aime ça comment il parle, le pont Laviolet, la surprise.
Ah ouais, ouais, non, mais c'est pas Mario qui a...
Non, non,
pas,
c'est Blaise qui a dit le pont Laviolet.
Oui, il a dit ça, mais c'était Mario qui présentait son initiative. Alors, c'était l'objectif et tout ça. Tout était planifié en fonction de prendre le contrôle, si on veut, et l'accès à un pont important avec une façon tu sais, qui permettrait de dériver le trafic pour prendre un autre pont pour se rendre sur la rive sud et tout ça. Et là, on utilise des termes très, très, très précis, là, Frank. Là. Si jamais il y a des policiers qui viennent au-devant de nous autres, on va se retrouver en situation de légitime défense. Mais en même temps, il est fait mention aussi que ça va se passer de façon pacifique. S'il y a des véhicules d'urgence qui doivent passer, on va les laisser passer. Mais là, ça va faire, il faut qu'on se lève et toute la bastringue habituelle là, de le peuple, levez-vous, puis blablabla.
Est-ce qu'il donne une justification pour son « on va se retrouver en état de légitime défense »
Ben, c'est dans l'éventualité où j'imagine il y aurait eu des corps policiers qui auraient voulu aller les disperser, là.
Oui, mais même à ça, légitime défense, faut que tu sois menacé, puis se faire arrêter, c'est pas...
Là, tu me mets dans une position où tu me demandes de justifier ses propos. Je sais pas.
Non, je te demande si lui il a expliqué sur quoi il se basait pour dire légitime défense. Il sort ça de son cul, comme souvent, là.
Ben, écoute, on n'a pas élaboré, là.
Okay, c'est juste alors,
du groupe, nous autres, on est des solides, on va faire qu'est-ce qu'on a à faire, et blablabla, bla, bla, et blablabla.
Moi, je pense que dropper légitime défense, parce que ça sonnait bien à ce moment-là.
Suite à ça, ça commence. Alexis Sornet-Strudel sort un live impromptu, pas annoncé, dans lequel il dit qu'il ne cautionne pas du tout ce type d'événement-là. Et patati patata, que c'est de l'extrémisme, que, tu sais, on veut faire les choses de façon pacifique, et blablabla, et blablabla. Réponse de écoute, là, ça part, là, ça va vite. Là, il y a une réponse de Mario Roy dans laquelle Mario descend d'une coche. Écoute bien le nombre de coches qu'il va descendre. Il descend d'une coche, et là, il dit... Ben là, on va avoir un agenda, on va avoir un horaire, ça va être géré pareil comme n'importe quelle manifestation et patati patata. Dans la vidéo d'avant, ils disent on va rester là jusqu'à temps que le gouvernement nous écoute. Alors, s'il faut rester là 3 jours, on va rester là 3 jours, puis blablabla. Là. Là,
je l'ai vu, ça s'attachait après le pont, là, sans gêner.
Ouais. Après ça, t'as Sornet qui sort ça, et là, on descend d'une couche. Après ça, il y a eu un autre, je me souviens plus si c'était un live de blé, ou en tout cas une autre allocution de blé, et ça redescend d'une autre couche. Tant et si bien qu'à la fin, c'est Mario qui fait un live dans lequel il dit « C'est vous autres qui allez décider. » Puis là, c'est on parle de faire un convoi, rouler moins vite sur les ponts pour affecter un peu le trafic. On va s'en aller devant l'Assemblée nationale. On va s'en aller devant la ministre Guilbeault. On va s'en aller devant, on va faire des barbecues. On va camper là. Fait que on est passé d'une action vraiment là très, très revendicatrice, tu sais, limite...
De radical de bloquer un pont à le verger de l'amour sur roue. Là.
On se retrouve au Tim Horton à telle heure samedi matin. puis là, on va aller faire un tour de machine.
Okay? C'est vraiment ça.
Mais là, on additionne tout ce que je viens de raconter là ensemble, ouais. Et là, on se retrouve le samedi matin. OK? Le samedi matin, il se déroule un événement au cours duquel il y a un individu qui se promène dans le stationnement et qui prend des photos de plaques d'immatriculation,
ouais,
avec une cagoule sur la tête. Là, je me base sur le récit que Tristan Péloquin en a fait. Et il y a eu un entretien d'ailleurs avec Mario Roy. Mario Roy l'a même dit lui-même. Fait que là, cette personne-là fait ça. Bon, là, après ça, ben tout le monde va chercher son café dans le service à l'auto, patati patata. Mario raconte qu'il se ramasse à la même hauteur, qu'il voit l'appareil photo, décide de descendre de son véhicule, d'aller à l'arrière. Et là, la personne cagoulée aurait reculé vers Mario. Puis écoute, on n'a pas de raison de douter de ce que Mario dit, mais aurait reculé vers lui, mettant ainsi sa vie en danger, et il utilise même le terme tentative de meurtre. Fait que avec une armée, en fait, le véhicule aurait été l'arme.
Ouais, ben si t'essaies de frapper quelqu'un avec ton char, c'est une tentative de meurtre armé, mais c'est. Est-ce que, tu sais, on a-tu des images? Est-ce qu'on voit le char? Est-ce qu'il recule, genre, pour s'en aller ou genre, tosse-toi, il recule tranquillement? Ou si, tu sais, moi, c'est cette partie-là qui m'intéresserait de savoir. On l'aura pas là. Mais si ça va en cours, on va certainement le savoir, là. L'intention est-ce qu'il savait que Mario était là? Est-ce que c'était juste reculer tranquillement pour dire laisse-moi passer? Ou bien si vraiment il a essayé de rouler dessus, là?
Ben, il s'est passé d'autres affaires, Frank. C'est qu'après que cet événement-là soit passé, il y a plein de sympathisants, évidemment, à la cause de Mario. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire une arrestation citoyenne, évidemment, et d'encercler le véhicule. Mais Mario a eu la présence d'esprit de dire à des gens, interpeller la police, parce qu'il y avait des policiers sur place, déjà, à cause de l'événement.
Dans ce temps-là, l'arrestation citoyenne n'est pas justifiée.
Ben non, c'est clair, mais tu sais, en fait, il voulait juste le bloquer là pour pas qu'il s'en aille, là, c'est clair. Fait que là, après ça, ben, selon Mario, et ce sont ses mots, je précise, c'est important, la raison pour laquelle il a été accusé d'intimidation, c'est tout simplement, selon lui, parce qu'ils ont entendu la version de l'autre personne avant la sienne, alors que lui considère que c'était lui la victime de cette affaire-là. Comme tu l'as très bien dit, l'avenir va le dire, on n'a pas de commentaire à faire là-dessus, s'il y a une cause, s'il y a une des...
Si non, on ne l'inventera pas sur des choses qu'on sait pas, là.
C'est ça. Fait que là, il y aurait eu une accusation contre Mario Roy d'intimidation. Puis ça va être au DPCP de décréter s'il y aura des poursuites par la suite, puis si ça verra le jour en cours ou pas. Puis selon Mario,
il n'y a
aucune possibilité qu'il soit accusé de quoi que ce soit. Parce que il y a plein de témoins, il y avait des cellulaires, il y avait bon, garde.
Oui, mais ça, c'est ce qui j'imagine, lui, considère comme de l'intimidation. C'est probablement quand ils se sont attroupés autour du véhicule, puis ça doit être assez intimidant, en effet, là, d'avoir une gang de conspies autour du véhicule qui te crie après. Là. Fait que, puis est-ce qu'il y avait le droit de faire ça? Non, je pense pas. Tu sais, je suis pas juriste ni rien, là, mais je pense pas que tu puisses détenir quelqu'un, l'empêcher d'être libre de ses mouvements, surtout si t'as une police à 100 mètres, là, qui est... Il aurait été sûrement plus safe, en tout cas, d'aller... tout de suite voir la police, puis tu sais,
Ben écoute, là, ce qu'on connaît pas non plus, Frank, c'est, tu sais, la durée de tout ça.
Ça s'est sûrement passé très vite, effectivement.
Quelques secondes, tu sais, fait que c'est peut-être, on peut peut-être considérer qu'ils ont interpellé la police tout de suite, qu'ils ont juste voulu le jammer là, tu sais.
Ouais, puis, moi, dire honnêtement, si quelqu'un essayait de me reculer dessus en charge, je m'arrangerais que ça n'aille pas. Fait que de ce côté-là, je peux comprendre, mettons, que tu sais, surtout si... Puis ça, c'est la partie qu'on sait pas, mais si c'est vraiment menaçant, puis tu vois qu'il avait une intention de te frapper avec son char, je le prendrais très mal, puis je m'arrangerais pour qu'il s'en aille pas avant que la police arrive. Ça, je peux comprendre cette attitude-là si ça s'est déroulé comme ça.
Alors, c'est ça. Fait que tu sais, jusque-là, tout ce que je viens de te relater, on peut pas dire que ça fait pas de sens. Là,
non.
Ça fait du sens, le fil des événements fait du sens. Là, où ça devient un petit peu plus touché, Frank, c'est que sur les médias sociaux, on parle de samedi matin, ben là, il a circulé plein d'affaires. Il y en a qui disaient que Mario avait été arrêté, il y en a qui disaient que non, il y en a qui disaient qu'il avait juste été questionné dans un véhicule de police qui était sur place au Tim Hortons. Là, on a commencé à voir des vidéos apparaître de gens, de tout ce qui passait dans le stationnement. On a entendu le fameux cri « Justice pour Mario ».
J'allais dire ça, « Justice pour Mario ».
Ouais, c'est ça. On avait, écoute, de la gomme aussi. On avait Steve, l'artiste Charlin, qui étaient là. On avait le fameux monsieur Farid aussi qui était impliqué avec Appel à la liberté. Mmh. On saura plus tard qu'également sur place, il y avait des administrateurs de la Sainte Fondation. On va culminer avec un beau témoignage d'amour, Frank. Et bon, ben là, c'est pas été long, là. Je veux dire, Mario a été libéré sur place. Puis là, ben, j'imagine qu'il y aura une suite à ça, puis il n'y a pas eu de... Bon, l'autre affaire, c'est qu'on ben, parlait
de la personne... S'il y a possibilité de poursuivre, Mario va le faire.
Ben non, il l'a dit. C'est clair. Là. Fait que là, l'autre chose dont on va parler, qui est un petit peu plus touchée, puis c'est un choix, je vous dirais, éditorial, on sait c'est qui la personne qui conduisait l'autre véhicule, sauf que là, ben, étant donné que c'est pas encore du domaine public, on le nommera pas. Puis j'ai pas vraiment d'autres commentaires à
dire. On peut dire au conditionnel que ça serait un anticonspirationniste qui aurait tenu des propos radicaux, on va dire comme ça. Auquel tu sais, si c'est d'ailleurs, si c'est vrai les propos qu'il aurait tenus, tu sais, de nature un peu agressive, même violente, nous autres on s'en dissocie là. Nous autres on
fera
OK, bon, on n'embarquera jamais, je pense que ça, on se comprend là-dessus, on n'embarquera jamais dans quelqu'un qui a un discours de violence, puis c'est descendre encore plus bas que les conspirationnistes. Là. C'est descendre aussi bas que les pires. Là. La violence, c'est jamais une solution, surtout quand on veut défendre une démocratie puis l'ordre public. On commencera pas à dire au monde d'être violent puis d'être agressif. D'ailleurs, nous, toi puis moi, Martin, on l'est pas là, nous-mêmes. Là.
Non. Puis ce que je voulais dire aussi, Frank, c'est que je tiens à préciser, parce que là, je n'accuse personne de quoi que ce soit, sauf que, tu sais, il y avait sur le tu sais, je comprends qu'il y a un peu d'adrénaline de la journée quand tu décompresses et tout ça, mais tu sais, cette personne-là ne fait pas partie des administrateurs de ménage du dimanche. Quand j'ai su son nom, ça m'a sonné une cloche, mais c'est pas un habitué, ce qu'on pourrait appeler un super fan à ma connaissance de la page ménage du dimanche.
Ouais, ça, on n'a pas épluché toutes les
nuits. Ces agissements-là ne sont cautionnés sous aucune considération par ménage du dimanche, et parallèlement à ça, ben, sachez que cette personne-là ne reviendra pas sur Ménage du dimanche.
Non, c'est ça. Puis s'il apparaît sur une de nos pages, il sera pas longtemps, parce que la violence, c'est l'argument du faible d'esprit. La violence, c'est l'argument du faible d'esprit. Puis nous autres, je pense que notre plus grande force, contrairement au conspi, c'est que on a des esprits forts, on va dire de même.
Tu sais, si vous refaisiez l'historique de... Parce que là, regarde, on va tout juste rappeler ça comme il faut en contexte. C'est que hier, Mario Roy a fait un live dans lequel, puis là, il fait la mention qu'il est tanné, puis que, tu sais, des pages comme Ménage du dimanche, comme Les Illuminés, comme Xavier Camus, des trucs comme ça, c'est de l'incitation à la haine. on tombera pas là-dedans, Frank, parce qu'on va annoncer une primeur, en fait, là, pendant que vous écoutez le show. Si vous nous écoutez, évidemment, sur Radio H2O, ben on va vous l'annoncer dans le show. C'est que dans le live de tantôt, ben, on va avoir Nicolas dénommé. Fait que on lui donnera l'occasion de dire ce qu'il a à dire sur l'individu en question. Puis la seule raison pourquoi qu'on le nomme pas, c'est pas parce qu'on veut mettre l'emphase nécessairement sur Mario. Ce que le gars a fait, le type en question qui conduisait le cagoulé, c'est maillet, puis ça finit là. La raison pour laquelle on veut pas le nommer, c'est juste parce qu'il n'y a pas encore d'accusation formelle, ou en tout cas que ça n'a pas encore été du domaine public. Par contre, si ça se produit, ben on n'aura pas de problème à dire c'était qui, sauf que, regarde, ça fait partie de notre fonctionnement. Les civils, lorsque c'est pas du domaine public, on les nomme pas, et en ce moment, ça ne l'est pas. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas du favoritisme.
Non, on protège pas personne de plus qu'un autre, on protège l'identité des gens qui ont pas choisi la vie publique, puis c'est comme ça que le ménage du dimanche marche depuis le début. Mais pour ceux qui sont pas des habitués, sachez que le live dont Martin parle, c'est que après chaque crachoir, avant d'être disponible en podcast, c'est diffusé sur Radio H2O, puis après ça diffusion, on en fait un live, une espèce d'after show sur Ménage du dimanche, la page Facebook Ménage du dimanche. Fait que si vous connaissez pas, venez nous voir. On est encore plus niaiseux live.
Absolument. Ça va assurément être, ça va faire partie de la conversation qu'on va avoir avec Nicolas, justement, cette espèce de notion d'être accusé d'incitation à la haine quand tu fais de l'humour. Là. Moi, j'ai pas des affaires à dire.
Quand tu combats la haine. Et quand tu combats ça, tu sais, c'est...
Ouais.
Fait que ça sera pas dans le crachoir qu'on va en parler. Fait que soyez des nôtres tout de suite après la diffusion. Ouais. Par contre, ben là, on a une belle histoire de Cendrillon dans tout ça, tissu de fil blanc et de Silver Lining. C'est que il y a eu une photo qui a été prise, donc, avec des membres de la Fondation et des membres du mouvement, si on veut, pro Mario.
appelons-les les condiments.
Ouais, ben laissant sous-entendre que qu'il y avait une trêve et que là, bon, on ferait attention à nos propos puis qu'on veut pas diviser puis qu'on est tous ensemble puis patati puis patata. Et même que ça a été confirmé par, encore une fois, le live de samedi soir de Mario Roy dans lequel il dit « J'ai donné ma parole que je ferai plus attention à mes propos, que je serai pas un agent de division. Je prends ma part de responsabilité. » J'ai trouvé ça bien correct de sa part quand même. Et là, ben regarde, tout indiquerait que tout est au beau fixe, tout est dans un effort commun. Puis là-dessus, pour conclure mes actualités, Frank, je vais te faire part de... C'est pas ma théorie, c'est quelqu'un qui, avec qui j'échange beaucoup, qui m'a fait part un peu de sa vision des choses, et j'y adhère à 150%. C'est que là, ce que ça me donne comme impression, là, c'est que là, t'as eu un call-out de Mario envers Blais, t'as eu Blais qui a répondu, t'as eu Cossette qui s'en est mêlé un peu à propos de l'affaire de bloquer le pont. Mais si on est honnête, à l'heure actuelle, les capacités de mobilisation de gens, c'est plus la Fondation qui est là, c'est Mario. Fait que moi, je pense que la trêve, puis encore une fois, je tiens à le dire, je peux pas vous nommer de qui ça vient, mais c'est une théorie qui tient vraiment la route, c'est sans jeu de mots, c'est que, tu sais, là, on veut acheter la paix parce que, justement, tu sais, les possibilités d'avoir des initiatives, des regroupements, des manifestations sont plus difficiles. Moi, je pense que à la lumière des chiffres qui ont été présentés par le conseil d'administration de la Sainte Fondation, je pense qu'ils roulent plus sur l'or. Je pense que ça rentre pas tant que ça. Mm-hmm. Là, ben, il y a beaucoup d'initiatives. Fait que là.
Ben, moi, juste pour ajouter, c'est que je pense que ce qu'ils veulent peut-être éliminer aussi, puis ce qui leur nuit beaucoup au conspi, c'est les événements concurrents. Quand tu fais un événement, tu me fais une manifestation, puis tu te fais cannibaliser le public conspi par un autre événement, ça divise, puis ça fait que les deux événements passent inaperçus à la place d'avoir un événement un peu plus marquant avec plus de monde. Fait que je pense que c'est peut-être ça. Tu sais, c'est vrai qu'ils étaient divisés, puis là, c'est. Il était carrément en concurrence. Là, ça devenait ridicule, puis ça servait pas leur cause bidon, là.
Puis au-delà de ça, Frank, tu sais, faut quand même, tu sais, les vraies affaires, faut appeler un chat, là. Tu sais, Mario Roy a traité Stéphane Blais de moron, de gestionnaire incompétent. Il a dit « Je vais t'enculer, je vous encule toutes. » Ça a après débordé. Là. C'est pas poli, juste ça. Une affaire de dissension idéologique, là. C'est un call-out en bonne et due forme. Fait que là, ben, à un moment donné, ben, mon père disait tout le temps, c'est le plus intelligent qui cède en premier. On ne sait pas qui a cédé. On ne sait pas les circonstances de ça. On ne le saura peut-être jamais. Sauf que là, c'est clair pour moi, avec cette photo-là, que le message qu'il veut t'envoyer, c'est arrête, on se calme, ça va bien, blablabla. Au final de tout ça, si je remets les choses en contexte avec le fameux CA de la Fondation, ben, c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui met de l'eau dans son vin parce que tu peux pas être diamétralement opposé comme ça.
Non, c'est pas un léger désaccord, là. Il l'a ramassé, il l'a invectivé comme du poisson pourri, là. Mais là, on apprend que c'est ça. Tu nous apprends que les deux coqs sont réunis dans la basse cour. Reste juste à voir combien de temps ça va prendre avant que les plumes se remettent à revoler.
Voilà. Et, pour vraiment tout bien wrapper up, c'est que dans un autre live de Blais, cette fois-ci, il a été fait mention que des manifestations, des convois, des trucs comme ça, il y en aurait pu. Et que là, l'emphase était mise sur les initiatives juridiques pour faire avancer ces dossiers-là parce qu'il y a beaucoup de travail. Sauf que, dans le live, encore une fois, d'hier, de Mario, il est fait mention que le 28 novembre, il y aura un autre convoi du style de celui d'hier qui va déferler devant chez Arruda et devant chez Legault.
La résidence. Là.
Non, mais attends, mettons qu'on regarde ça à haute altitude avec nos yeux de JR et Wing. Là.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu un deal qui s'est coupé du genre, bon ben regarde, nous autres, on va s'occuper de nos avocats, puis toi, faisant des convois puis des manifestations, puis c'est le même qu'on va s'organiser. C'est ça l'impression que j'ai.
Ouais.
Ça pue ça à plein nez. Puis là, ben comme ça, on s'en verra plus chier, puis moi, on va faire mes affaires de mon bord. Tu feras Étienne de ton bord. On continue à avoir du pied carré dans le conscient collectif des conspis. Mm-hmm. Puis on va lui dire pour commencer qu'on n'est plus en chicane. Fait que c'est toute la même patente.
Ça ressemble beaucoup à ça, effectivement. Puis ça serait la façon sûrement la plus intelligente de régler ça.
Fais
tes convois qui dérangent personne parce qu'on s'en pomme pas compte que c'est une manifestation parce que vous roulez juste moins vite. Puis toi, fais des promesses de recours judiciaire qui ont jamais lieu parce que t'as pas de cause. Faites semblant de chacun votre bord qu'il se passe quelque chose et les conspies seront bien gardés.
Ben, écoute, Frank, c'est exactement ça. C'est continuons de faire des activités pour montrer qu'il y a de l'activité chacun de notre bord. Puis comme ça, ben, vogue la galère, mon vieux, puis on s'en va avec ça, puis il n'y aura pas de problème. Tu sais, fait que quand je dis qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe aux États-Unis puis ce qui se passe ici, ben, c'est clairement ça. C'est que là, tu as plein d'activistes, là, mettons qu'on les comparerait, on dirait que c'est la gang à Mario, qui font toutes sortes d'affaires, puis des manifs, puis des patentes, puis tout le kit. Là, ben, tu as de l'autre côté, tu as la gang à Trump, que celui que tu l'as très bien dit et j'abonde dans le même sens, que Blais plagie à satiété.
Ouais.
Ben, là, lui, il va s'en aller prendre la voie juridique, puis un paquet de patentes. Et rappelons, sans retomber là-dedans, puis finir, que tout, à peu près tous les recours de Trump ont été déboutés. Il en reste plus ben. Et pour la première fois, Trump a mentionné à mots très couverts que la perspective de ne pas être de la prochaine administration existait. Il a dit, on va, time will tell. C'est ça qu'il a dit. Alors, tu sais, fait que là, est-ce que toute cette pandémie-là, cette folie-là, va durer assez longtemps pour qu'on puisse en avoir une deuxième ère? Je pense que oui.
Oh oui, ben écoute, deuxième vague de COVID, deuxième heure de conspi. Puis effectivement, il l'a plagié et il l'a plagié tellement précisément que, pareil comme Donald Trump, toutes ses tentatives judiciaires échouent.
Ben oui, puis on attend toujours d'ailleurs le coup de pied dans le cul de Trump. Et on attend toujours également notre knockout là, à l'effet que
je pense que c'est annulé parce qu'il nous avait dit que le temps était venu puis que le timing était bon, mais là ça fait plus qu'une semaine de ça, fait que le timing est passé, fait que je pense qu'on sera je veux pas crier victoire là, ou ben tu sais que t'as créé chez toi un sentiment de fausse sécurité là, mais j'ai l'impression qu'on se fera pas knocker out par Stéphane Blais, ni dans un ring ni sur les réseaux sociaux.
Dernière affaire aussi que j'ai omis de te mentionner, Frank, c'est Coco, de la manifestation, en tout cas du point culminant d'hier, alors que la gang à Mario ont investi les gazons de l'Assemblée nationale. Il a reçu un ticket pour distanciation et il nous a vendu pendant 10 minutes que c'était son rêve parce qu'enfin, il pourra citer à comparaître, je parle de Mario bien sûr, il pourra citer à comparaître Arruda et Legault. En fonction de leurs actes, et je cite, criminels. Et fait que là, ben lui, c'est son rêve, il est content, il a hâte de le contester. Mais.
C'est pas de la diffamation, ça, dire qu'ils sont criminels?
Ben, rappelons, Mario, que tes fameuses arrestations, puis ta cérémonie, qu'on a eu une minute de silence avant qu'elle se fasse au lieu d'après quand elle est morte, qui augurait pas très bien.
Avec
ben,
le shérif.
Il n'y a eu aucune hostie d'avancée là-dessus.
Non, rien, zéro, rien.
Non, il n'y a rien. Et. Dernier point pour vrai, je m'excuse.
Ça fait là, quatre. De... C'est pas grave, on a le temps.
Mais c'est quatre points de conclusion. Rappelons-nous que, encore une fois, dans un live de Blais, il était fait mention qu'il y avait 14 jours, la Cour d'Ontario, au niveau fédéral, avait 14 jours pour aller de l'avant avec la requête que Maître Rocco Galati a présentée. Ça nous amenait au 8 novembre. On est le 15 novembre, il y a eu fuck all.
Rien. Non, c'est il y a toujours rien, mais il y a toujours un show autour de ce rien-là.
Ouais, c'est ça.
Bon, avant que tu nous fasses une sixième conclusion, je vais présenter. Vous voyez pas, là, mais nous autres, on se voit sur caméra et Martin m'a fait un geste obscène. Après la pause, on parle avec Alexis Wawanolowat. Et d'ailleurs, je veux aussi dire que on aura maintenant l'aide d'Alexis Wawanolowat à titre de collaborateur pour commenter l'actualité des Premières Nations. Il s'y connaît très bien. Donc, on écoute ça, mais avant, je veux absolument vous faire entendre une chanson d'amour que je dédie à Mayo. Ça s'appelle « I love Mayo ». C'est de Mayonnaise Song.
I said, hey, yo, I really, really love Mayo. Hey, yo, hey, yo. I la 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 love mayo. Hey yo, hey yo. I la 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 love mayo. Hey yo, oh ho ho, hey yo. I really, really love that mayo. It wonderful, it's so great. On my sandwich or just straight. The whole world is in a craze, going wild over mayonnaise. I said, hey yo, hey yo, I really, really, really love mayo. No, no, this is not a phase. I will always love mayonnaise. Hey yo, I really, really love mayo. I said, hey yo, hey yo, I la 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 love mayo.
Les grosseurs et les dénonces, les charlatans et les pourfants, les mythes et les brises, les tabous et les encules.
Il y a aujourd'hui 2 ans, il y a un membre de la Nation Abénakis qui s'est vu refuser une assurance auto par une compagnie qui s'appelle Industriel Alliance. Selon lui, ça serait un cas de racisme systémique en date d'aujourd'hui, 2 ans après. Le dossier est toujours pas réglé. Il s'agit de l'ancien député du Parti québécois, aujourd'hui juriste, Alexis Wawanolowat. Il est avec nous. Salut Alexis.
Quoi, Frank?
La raison pour laquelle je suis si familier et que je vais tutoyer Alexis tout le long de l'entrevue, c'est qu'on s'est déjà côtoyé lors d'entrevues à la radio, puis on se connaît un peu, on est dans le même coin.
J'ai été chroniqueur avec toi à ton show aussi, tu te rappelles pas, là?
Ben oui, absolument.
On a travaillé ensemble après que j'ai été député.
D'ailleurs, parlons-en, t'as été député, mais t'as été le premier député membre des Premières Nations de l'histoire à être élu à l'Assemblée nationale, c'est pas rien?
Non, pas de l'histoire, il y en a un en 1922 qui s'appelle Luigi Bastien. Si tu veux utiliser le terme premier, c'est le premier depuis qu'on a le droit de vote.
Deuxième
à l'Assemblée législative du Québec. Avant que ça s'appelle l'Assemblée nationale, c'est ça, il y a eu Luigi Bastien qui est de la Nation Wendat. Qui avait été élu vers 1922 pour le Parti conservateur.
Mais à ce moment-là, les Autochtones n'avaient pas le droit de vote, c'est bien ça?
À ce moment-là, les Autochtones, les Wendat, les Abénakis, les membres des Premières Nations n'avaient pas le droit de vote, en effet.
Ah, OK. Colin, c'est quand même une nuance importante.
On a eu le droit de vote en 1969 au Québec.
C'est tellement tard que c'est gênant. Je te demande de plus le dire, s'il vous plaît.
c'est les derniers, je pense, au Canada, là, la dernière province, là, mais...
Non, mais c'est important de pas oublier ça, là, parce que même si c'est honteux, on peut pas effacer l'histoire, puis il faut pas l'effacer. Pour entrer dans le vif du sujet, Alexis, t'as tenté d'obtenir une assurance auto auprès de la compagnie industrielle Alliance. Ça fait 2 ans de ça. On t'a refusé pour des raisons que toi t'estimes discriminatoires. Qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion-là, ou comment ça s'est déroulé, au premier contact avec la compagnie?
Moi, je vivais à Sherbrooke, je résidais à Sherbrooke, mais j'avais tout le temps mon adresse à mon domicile à Odanak. J'étais à Sherbrooke pour mes études en droit.
Odanak, c'est une réserve?
Odanak, c'est une réserve, c'est ça. Au nord de Drummondville, entre Saint-Pinicolette, sur la rive sud, le long de la rivière Saint-François.
Ouais.
En langage colonial, la rivière Alcigantecoc en Abénaki. Mais bon, tout ça pour dire que mon coloc de Sherbrooke, qui était un vendeur d'assurance vie pour l'industriel Alliance, puis ils sont incités aussi à demander à leurs entourages, à leurs clients, de solliciter pour des assurances automobiles. Donc là, ils viennent à la maison, « Ah ouais, ça m'aiderait, là, si tu ferais, tu regarderais pour une assurance automobile, fais juste demander une soumission, t'appelles ce numéro-là, puis au pire, qu'est-ce qui va arriver, tu vas économiser. Qui veut pas économiser, moi j'appelle, et je donne mon numéro, mon nom, puis là, je donne mon code postal. Puis la dame, elle me dit, oh, ce code postal-là, c'est sur réserve, on assure. Fait qu'ils ont même pas voulu me faire une soumission d'assurance
okay.
À ce moment-là.
Ça s'est passé franchement comme ça. Elle avait dit, oh, ça, vous êtes sur une réserve, ça fonctionnera pas. Elle vous a rejeté de rechef là-dessus.
Ben oui, d'habitude, les compagnies d'assurance sont un petit peu plus intelligentes qui veulent faire de la discrimination. Ils donnent des primes tellement élevées sur réserve que tu prendras pas le contrat. C'est la façon qu'ils se débarrassent des clients qui veulent pas. Mais bon, les autres, manifestement, ils ont juste comme été direct ou de point, ils ont pas essayé d'utiliser des tactiques ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit « straight dans ma face ». Non, c'est sur réserve, on t'assure pas. Puis moi, j'étais en train de suivre mon cours de droit de la personne, droits et libertés à cette époque-là.
Parce que
c'était déjà arrivé avant avec Hydro-Solutions, ça. Hydro-Solutions, la compagnie de chauffe-eau, avait pas voulu me louer un chauffe-eau sa réserve. Je me suis réessayé 10 minutes plus tard avec une adresse à 100 mètres de ma maison à Pierreville, qui est le village à côté d'Odanac. Puis là, il y avait pas de problème. Fait que c'était pas la première fois, ça m'arrivait qu'on me refusait un service. Puis quand j'ai aussi essayé d'assurer ma maison, il a fallu que je revienne avec mon assureur de l'Abitibi pour assurer ma maison puis ma voiture. C'est mon assureur que j'ai depuis quasiment que je suis ado qui a continué à m'assurer. Promutuel à Malartic. Mais bon, bref, tout ça pour venir à l'Industrielle Alliance, je suis en train de suivre mon cours. Fait que j'ai conscience que ça respecte pas l'article 10 de la Charte des droits et libertés qui dit qu'on n'a pas le droit de discriminer les gens sur leur ethnie, leur origine ethnique. Mm-hmm. Puis, je suis conscient aussi de l'article 20.1 de la Charte des droits et libertés qui dit que les compagnies d'assurance, c'est pas ça qu'il dit exactement, mais si je paraphrase, l'article 20.1 qui dit « OK, les compagnies d'assurance, vous avez le droit de discriminer, mais sur des analyses actuarielles basées sur le sexe, l'état civil puis l'âge de la personne. L'origine ethnique n'est pas dedans les éléments où ils ont le droit de discriminer avec une analyse actuarielle. » Donc, je dis tout ça à la dame que c'est illégal, qu'est-ce qu'elle fait, qu'elle n'a pas le droit. Puis là, elle me dit « Ah, ben c'est pas moi qui vous discrimine, c'est les politiques de la compagnie. »
Est-ce que selon toi, elle disait vrai ou ça peut être une initiative personnelle parce que
elle disait vrai là, la madame, tu sais, elle avait l'air vraiment désolée puis elle savait pas trop quoi faire avec cette patate chaude là, fait qu'elle me renvoie au gars des plaintes.
OK.
On appelle le gars des plaintes, ça répond pas. Le gars des plaintes me rappelle le lendemain d'un ton super condescendant en plus. Pour me dire « Ouais, ça passera pas ton affaire, on a le droit de faire ça, ça fait partie de nos politiques, ça a tout le temps fonctionné de même. » Là, j'ai réexplique qu'il est en infraction de la Charte des droits et libertés, qu'il a pas le droit de faire ça, puis que je vais porter plainte. Fait que là, tout ce qu'il avait à me dire, c'est « OK, il faut que tu remplisses un formulaire à l'AMF, un autre formulaire au bureau de l'assurance, patatati, patatata, patatata. » J'avais l'impression qu'il voulait me faire peur avec toutes les démarches administratives. Là, que je laisse. Ça dure 2 minutes, l'appel, là.
OK. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres recours?
Ben là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que je suis comme interloqué par ça. Puis je demande à mon professeur, justement, de droits et libertés, qui est un spécialiste qu'on cite souvent même dans les jugements de la Cour suprême, Daniel Picou. Bon, ben ça m'est arrivé la semaine dernière. Selon vous, qu'est-ce que je devrais faire? Il me dit, porte plainte, t'as tous les éléments d'une cause de discrimination basée sur l'origine ethnique, tu devrais normalement remporter ta cause assez facilement. Fait que je porte plainte à la Commission des droits et libertés du Québec. Des droits et libertés de la
personne.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, excusez. Donc, là, on s'entame un processus fastidieux, ça s'en va en enquête, après ça, on me propose une médiation. Tu sais, je vais être de bonne foi, moi, dans la vie, là, je veux que ça règle. Et c'est une chance à accompagner, peut-être, de s'expliquer. Je demande à ce que, vu que la discrimination que j'affirme avoir vécue s'est passée sous réserve, je demande à ce qu'on fasse peut-être la médiation sous réserve, un accommodement comme ça pour qu'on puisse comprendre que, OK, oui, sa réserve, c'est pas si pire que ça, puis qu'on puisse justement avoir une idée de qu'est-ce que c'était la réserve de la part d'administrateurs de l'industriel.
OK.
On peut pas.
Bon.
Après ça, j'arrive à la médiation, puis là, ça fait un an, là, qu'on est en enquête, puis tout ça à peu près, là, on est un an plus tard après ma plainte. Là.
OK, puis il y a un enquêteur qui est affecté à ton dossier, là, depuis un an.
Il y a un enquêteur qui est affecté à mon dossier, puis comment ça fonctionne à la commission, c'est qu'on l'enquêteur, on envoie le dossier en médiation. Puis là, la médiatrice, elle connaissait rien de rien au racisme systémique, en tout cas, ça s'est pas super bien passé avec la compagnie. ne peux pas trop en parler parce que j'ai signé une entente de confidentialité sur qu'est-ce qui se passe en médiation.
Okay.
Et qu'est-ce que je peux dire de la médiation, c'est que la médiatrice, elle ne connaissait pas vraiment le racisme systémique, les conséquences de ça, puis comment justement traiter mon dossier, puis comment justement être une bonne médiatrice dans un dossier de racisme systémique.
Oui, effectivement.
C'est la Commission des droits de la personne puis des droits de la jeunesse là, qui est son patron. Fait que ça retourne en enquête. Là, on est rendu on est rendu en février de cette année, février ou mars, en tout cas. J'ai un nouvel enquêteur qui est attribué, qui est dans mon dossier, et pendant la COVID, pendant que je suis en train de faire mon barreau, pendant que ma femme est alitée parce qu'elle est enceinte puis elle peut pas trop bouger, il m'envoie un délai super court, comme me demandant c'est qui a assuré ma voiture, comme si c'était vraiment comme un gros rapport dans l'histoire. Mais en tout cas, bref, je comprends pas trop le lien. Pourquoi ils veulent savoir c'est qui assure ma voiture? C'est pas contre mon assureur actuel que j'ai une plainte. On m'explique jamais le lien. Et on me donne une date butoir pour fournir l'information. Donc, à un moment donné, le monsieur m'appelle, j'ai dit, j'ai pas le temps, je trouve que votre façon de faire, ça se rapproche à de l'intimidation. Que c'est me donner une date butoir comme ça, sans me laisser le temps. On est en période de pandémie, en plus, les gouvernements ont étiré les délais en droit civil, puis tout ça, tu sais, moi, je me dis, j'arrive pas à croire qu'on soit si insistant.
As-tu l'impression qu'ils ont essayé de te décourager?
Non, c'est juste que moi, j'étais vraiment, vraiment écœuré de tout le processus avec la commission déjà. Il voulait savoir si je voulais fermer le dossier. Puis j'ai jamais dit que je voulais fermer le dossier. Puis il me dit, ah ouais, mais faudrait qu'on sache. Ouais, ben, si je veux fermer le dossier, je vais vous le dire, tu sais, je vais vous l'écrire. Mais là, j'ai pas le temps de vous envoyer l'information que vous me demandez. Quand j'aurai le temps, je vais vous l'envoyer. Bref, je reçois une lettre en août qui dit que mon dossier est fermé. Ah, là, okay. Je me dis, c'est qui ça, l'enquêteur Boulian? L'enquêteur, c'était un monsieur Boulian qui était mon enquêteur. C'est qui ça, l'enquêteur Boulian? On dirait un agent de sinistre, un expert en sinistre qui traite mon dossier comme un dossier d'assurance. Ben, Boswell, je fais une petite recherche de rien sur Google, toc, 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 toc. Je tombe sur son compte LinkedIn. Puis qu'est-ce que je vois pas? Ben, Boswell, le dude, c'est un agent de sinistre, un expert en sinistre, qui, en plus d'avoir son travail à 80 000 piastres par année à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse comme enquêteur, a aussi une compagnie qui offre des services d'experts en sinistre aux compagnies d'assurance.
OK, donc c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec les compagnies d'assurance, puis qui est là en fait pour faire économiser de l'argent souvent aux compagnies d'assurance.
Donc je trouve ça assez particulier. Fait que j'écris une lettre au président de la commission en lui disant que je trouve que ça n'a pas d'allure qu'il aille fermer mon dossier, puis que je veux qu'il soit réouvert, puis que je veux qu'il y ait une enquête sur leur enquêteur, une enquête indépendante sur le conflit d'intérêts apparent de leur enquêteur, puis je leur demande à eux c'est quoi qu'ils font par rapport à leur propre racisme systémique à la commission. Ne pas avoir d'accommodement comme pour juste un simple accommodement comme avoir une médication sur réserve. Ne pas avoir d'employé. Cherche aussi comme après tout ça, puis j'ai trouvé dans un rapport assez loin de la commission vient comme qui faisait état de tous les services publics comme la commission puis leur nombre de cas, que depuis 2001, la Commission des droits de la personne puis des droits de la jeunesse, dans des plaintes de discrimination, des choses comme ça, a eu juste 17 dossiers autochtones depuis 2001.
Ouais, ça semble peu, hein?
Ouais, c'est très peu, tu sais, c'est pas comme si on n'en vivait pas de la discrimination, les autochtones. Donc, tout ça, puis là, fait que je mets ces trois éléments-là dans la lettre, on me répond, ah, ben, tu peux refaire une demande, on va accepter si tu recommences le processus à zéro. Donc, moi, dans ces conditions-là, je peux pas avoir une tranquillité d'esprit avec eux. Je leur ai écrit une lettre comme quoi je dis que je veux un enquêteur indépendant dans mon histoire à moi, parce qu'ils ont le pouvoir, la commission, de nommer des enquêteurs indépendants pour certains dossiers.
Parce que l'autre, selon toi, il est en conflit d'intérêts.
Ouais, mais même s'il réassigne un autre enquêteur, cet enquêteur-là, j'avais posé la question, ils ont fini par, après ça, cette lettre-là, me réassigner une autre enquêtrice. Puis elle ne pouvait pas comme enquêter sur sa propre commission puis sur comment mon dossier avait été traité par la commission. Elle n'avait pas cette indépendance-là.
OK.
Donc, je demande à avoir un enquêteur indépendant, d'avoir une enquête sur l'enquêteur Boulian et d'avoir un état de compte ou un état qu'on réponde à mes questions sur qu'est-ce qu'ils font, eux, dans leur processus d'embauche, dans leur politique et ainsi de suite, pour justement éviter que la commission qui est supposée de défendre nos droits, qu'elle-même ne fasse pas du racisme systémique. Donc, suite à cette lettre-là, ils ont décidé de me rendre une lettre pour me dire qu'ils ouvraient mon dossier. Puis fait que là, c'est comme ça qu'ils se défendent aujourd'hui. On l'a entendu dans le reportage de la PTN. Ils disent que mon dossier est toujours ouvert. Mais il a fallu que j'écrive 3 lettres. Puis que c'est ça, les dernières lettres, j'étais plus dans l'optique de vouloir avoir un enquêteur qui venait d'eux autres. Je trouve que... Non seulement mon dossier avec l'industriel Alliance, c'est plate, mais l'organisme qui aurait été supposé d'être là pour me donner un coup de main dans la patente, elle-même a fait ça tout croche.
Est-ce qu'il reste d'autres recours?
Ouais, ben il y aurait d'autres recours. Je peux tout le temps aller dans les tribunaux généraux. Là, il faut que je sorte de ma... le montant d'argent pour payer pour le coup que je fasse mon enquête, que je m'embauche un avocat. La commission des droits de la personne est là pour une raison. C'est justement parce que c'est super dur à aller défendre ses droits soi-même.
Oui, c'est ça. Puis j'imagine, puis c'est pas accessible à tout le monde, ne serait-ce que pour des raisons financières. Puis c'est beaucoup mm-hmm. compliqué. Fait qu'on compte sur cette commission-là pour défendre des gens qui n'ont pas nécessairement le temps, l'expertise ou les moyens de se lancer dans des procédures judiciaires devant les tribunaux. Mais là, si ça marche pas avec la commission, est-ce que c'est la seule option qui se présente?
Ben comme je te disais, je pourrais peut-être aller devant les tribunaux de droit commun, genre, puis aller faire ma cause moi-même.
Mais ça devrait pas se rendre là, hein?
Ben, regarde, je sais pas trop. Je vais voir qu'est-ce qui se passe maintenant que ça sort un peu dans les médias. Est-ce que la commission va réviser sa position? Moi, au bout de la ligne, là, qu'est-ce que je veux, là, c'est qu'on aille une commission qui défende vraiment les droits de tout le monde, puis on l'a vu là, dernièrement avec Joyce Echaquan, là, tu sais, comme cette commission-là ose parler de racisme systémique, mais ose pas faire face à ses propres problèmes, ose pas se regarder dans le miroir, essayer de voir qu'est-ce que eux ont. Puis c'est le problème de beaucoup d'institutions, tu sais, on voit des médias faire la morale sur le racisme systémique quand ils en ont un eux autres-mêmes dans leur propre rang, dans leur propre mur.
C'est ouais, l'autocritique ne semble pas être à la mode ces temps-ci. c'est assez désolant. est-ce que selon toi le gouvernement devrait intervenir ou peut-être réformer ces institutions-là? As-tu un message à adresser au gouvernement ou à François Legault directement?
Ben pour le racisme systémique, là, c'est sûr que j'aimerais qu'il reconnaisse. Ça serait étonnant vu l'état politique des choses qu'il le fasse. Là, je pense que lui, il est conscient de ça, mais il veut pas déplaire à sa base. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans son refus de cette reconnaissance-là. Que les tribunaux reconnaissent, qu'on reconnaît partout au Canada, sauf au Québec. Tu sais, c'est pas comme on le voit dans mon cas là, c'est pas des personnes nécessairement qui ont voulu. Ça peut être ça, le racisme systémique. Le racisme systémique, j'ai entendu une définition que je trouvais intéressante. Ça se compose du racisme institutionnel, du racisme culturel puis du racisme individuel. Les trois ensemble ont le racisme systémique. Mais dans bien des cas, justement, comme dans le cas, je pense pas qu'il y ait personne qui a eu une intention de dire « Ah oui, on va exclure, on va discriminer les Autochtones. » Mais le système, la politique, l'ordinateur de l'industriel Alliance a dit que j'étais pas admissible, tu sais.
Mais ça part quand même de politique.
Il y a ça aussi derrière le racisme systémique.
Mais ça part quand même de politique de l'entreprise qui a été élaborée par des êtres humains.
Ouais. Fait que oui, c'est sûr, mais par des analyses actuarielles ou des choses comme ça, où on n'a pas nécessairement voulu comme inscrire une discrimination, mais oui, c'est comme un peu la justice. Je sais pas si tu suivais ça un peu, les nouveaux robots, l'intelligence artificielle qui fait de la justice aux États-Unis, qui fait des sentences, des rapports sententiels, puis des choses comme ça.
Okay.
L'ordinateur est souvent aussi raciste que les humains, là, à cause que justement, c'est des humains qui, avec leurs préjugés, qui l'ont programmé. En plus, quand on est dans une position où on dénonce le racisme, on se fait souvent dire « Ah, tu te victimises, tu utilises encore la position de victime, tu es là pour faire pitié. Okay? » Quand on veut passer un message, puis on... Moi, j'ai pas de fun à raconter mes histoires de racisme, à raconter les histoires que j'ai vécues, comme j'ai pu le faire dans certaines chroniques sur les médias. T'sais. J'ai aucun plaisir là-dedans, mais la mort de Joyce Echaquan, je pense, nous montre que si on le montre pas, si on n'en parle pas, il y aura pas de changement.
Juste pour rappeler aux abonnés, Joyce Echaquan, c'est cette femme atikamekw qui est morte à l'hôpital alors qu'elle demandait de l'aide et puis elle était ignorée par les infirmières, vous vous rappelez certainement. Ben il faut que ça bouge puis il faut continuer d'en parler.
Oui, ben c'est ça, je pense qu'il faut en parler puis moi je me dis que dans cette position-là quand je parle de mes histoires, c'est peut-être transférer la honte à quelqu'un d'autre. Tu sais, t'as honte de qu'est-ce qu'on est quand on est racisé, quand on vit du racisme toute sa vie. Moi, j'ai conscience de vivre du racisme depuis que j'ai des souvenirs. Puis, je sais que j'en vis depuis ma naissance. Parce que ma mère m'a raconté comment c'était la grosse affaire que ma mère veuille donner mon nom, comme les infirmières trouvaient que ça n'avait pas d'allure.
Ouais,
ça n'avait pas d'allure.
Il voulait une version catholicisée de ton nom, hein?
Oui, ben c'est ça, c'est Wawan Alawat a été transformé en Olette.
Olette.
Comme Jean-Paul Olette, l'ancien animateur de radio, c'était un Wawan Alawat à naissance.
Pour vrai?
Ben oui.
Puis ta mère a tenu son bout.
Ma mère, non seulement elle a tenu son bout face à l'infirmière, mais face au système du fait que, selon le code civil, t'es soit supposé porter le nom de ta mère, soit porter le nom de ton père. Puis ma mère, c'est une Siwi légalement. Aujourd'hui, elle porte le nom usuellement Christine Siwi Wawan Alawat, mais à l'époque, c'était ni le nom de mon père, ni le nom de ma mère, puis ça a passé.
Bon, ben, on va suivre ça de près, puis on va se reparler s'il y a des développements. Je te souhaite qu'il y ait des développements dans ton dossier. Est-ce qu'il y a encore espoir pour toi que ça avance ou ça va se terminer là?
Ouais, ben, faudrait que je voie avec la commission là, s'ils sont prêts à me nommer un enquêteur indépendant. Faudrait que je voie avec peut-être d'autres options. Là. C'est pas nécessairement terminé. Là. C'est juste que, ben, c'est ça. J'ai aussi une vie à vie. J'ai un nouveau travail. Donc, je vais voir là, qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça. Et merci Ben de m'avoir pris quelques minutes hein, pour en parler.
Merci beaucoup d'avoir de nous avoir accordé l'entrevue, Alexis.
Ben, miigwech, comme ils disent les Algonquins, les Anishinaabe.
À la prochaine. Yeah, we're Le Crachoir, épisode 134, cause valable. Maintenant, vous comprenez le titre. Et on va aller à la poutine. Puis j'aimerais ça que Martin, tu me parles de ton nouveau show.
Ah ben, c'est le timing peut pas être meilleur parce que ça, évidemment que ça dépend de quand vous écoutez cet épisode ou cette émission, mais c'était dimanche en fait, ce matin pour certains, le 15 novembre, dès midi sur radiodeo.com, que j'ai tenu la première émission, le Boom Chick Hour. Je vais vous réserver plutôt la surprise de comprendre la signification de Boom Chick, mais sachez qu'il ne s'agit pas d'une joke à connotation patriarcale qui ferait référence à la gent féminine, mais pas du tout. C'est une onomatopée qui est également un style musical qui a trait à la guitare. Fait que c'est quoi ça? C'est moi qui se gâte depuis longtemps que je voulais faire ça, donc... T'sais, j'ai tellement de temps libre que là, j'ai dit, hey, partage ton radio. Mais non, c'est ça. Fait que ce sont des anecdotes sur des artistes, des musiciens, des guitaristes, évidemment, surtout. Puis de toutes les souches, là, j'oserais dire. Là. Mais toujours à connotation acoustique. Donc, écoute, c'est le dimanche à midi, c'est parfait. Tu te fais ton café, t'écoutes Godette raconter des anecdotes de ces artistes-là. Il y en a beaucoup que, en ma qualité d'administrateur du Festival Guitare, j'ai pu côtoyer, rencontrer, tout ça. Fait que j'ai plein d'anecdotes capotées. Et évidemment, on fait jouer de la musique. Ce matin, j'ai présenté un gars que je te casse les oreilles avec depuis 10 ans, c'est-à-dire Tommy Emmanuel. Mais on a fait un peu l'histoire du Boom Chick. On a parlé de Merle Travis, on a parlé de Chet Atkins, on a parlé d'un paquet de monde avec des extraits super cool. Et évidemment, j'ai trouvé une façon de faire jouer du Elvis là-dedans. Alors, regarde, j'ai bien du fun. Puis, c'est une première. Écoute, je suis super content du résultat. Merci à tous ceux qui ont été là. Sachez aussi que ça va être disponible en podcast. Donc, ce que je pourrais vous dire pour faire ça rapide, allez sur Boom Chick Hour sur Facebook et vous allez avoir toutes les nouvelles. Faites juste liker la page puis je vais mettre du stock là régulièrement. On a déjà le sujet du prochain show de la semaine prochaine, Frank, et on parle d'un autre monstre. Et là, je parle du meilleur guitariste de slide guitar ever. Et je parle, bien sûr, de Jerry Douglas. Alors, on passe une heure avec Jerry Douglas à écouter des affaires et à raconter des histoires.
Cool, c'est un beau projet, puis c'est bon pour la culture musicale, parce que si on a tous des guitaristes préférés, puis quand on demande au monde de nommer c'est qui le meilleur guitariste, ah, c'est Slash, tu sais, c'est Eddie Van Halen, des gros noms super connus, mais sachez que les meilleurs ne sont pas nécessairement des superstars, en tout cas du même niveau, parce qu'ils s'adressent pas à un public aussi large, mais attendez d'entendre jouer Tommy Emmanuel. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est une autre ligue, un autre monde, là, carrément. Puis pour le découvrir, moi je trouve que c'est une maudite bonne façon de découvrir ça avec Martin, parce que Martin, il dit pas lui-même, là, mais moi je vais vous le dire, c'est un méchant bon guitariste. Puis il est super versatile dans tous les styles. Je dis pas qu'il maîtrise tout ce qu'il va vous faire jouer, là, parce que on s'entend, il fait jouer des virtuoses. Là. mais j'ai en ma possession et je pourrais vous faire entendre des affaires que j'ai enregistrées de lui, notamment la guitare acoustique. Et à la slide, c'est drôle parce que tu parlais de slide tantôt, mais t'as déjà enregistré pour une musique de film, si je me souviens bien. Tu m'avais demandé de te produire ça, on t'avait enregistré. Puis j'ai gardé ces tunes-là, puis je les écoute des fois juste pour les écouter parce qu'ils sont bonnes, puis c'est des compositions de Martin. Fait que c'est... Vous vous ramassez pas avec un profane qui sait juste qu'une guitare, ça a 6 cordes, là. Il connaît son affaire.
Mais Frank, je te prends à défaut, mon cher ami, parce que le thème de la station, le thème musical principal de la station, est une partie de ce morceau-là.
Oui, pour l'avoir moi-même fait, là. Ouais. Je m'en souviens, oui, le thème de Radio Déo, ce que vous entendez, c'est un extrait d'à peu près une seconde d'une pièce que Martin a composée pour Cabane. Hein?
Ouais, ben c'est ça, c'est un chum cinéaste qui m'avait demandé de faire un petit score pour une scène en particulier. Il l'a jamais utilisé d'ailleurs, fait que c'est pas une affaire de big shot, mais c'était bien fait, c'était cool, puis on a eu du fun à TPC aussi quand on était allé chez vous. Mais non, c'est ça, c'est sans prétention, c'est du Martin Godette pur. Écoute, des fois j'accroche des pitons puis tout, mais on a du fun, puis j'ai eu des bons commentaires aujourd'hui, fait que je suis super content. Les dimanches midi, radiodeo.com, Boom Chick Hour sur feed.
Puis ceux qui sont des auditeurs du Crachoir de longue date ont peut-être déjà pogné, je sais pas, je me rappelle plus quel épisode, mais Dr. V avait joué une tune live avec Martin, les deux ensemble, une composition. Dr. V, c'est un de mes bands. Et puis, les deux ont joué à la guitare, puis c'était, tu sais, Martin connaissait pas la toune avant de la jouer, puis Dr. V l'avait même pas vraiment toute composée, fait qu'ils l'ont à moitié improvisé comme ça, puis ça avait donné quelque chose de bon. Si, je me rappelle plus du numéro de l'épisode, mais la chanson s'appelle « Ton jardin ». Si vous tapez Dr. V, « Ton jardin » sur YouTube, c'est la version que jouait dans le crachoir avec Martin à la guitare.
Ça a fait l'album en plus.
Oui, oui, c'est la version du crachoir live de toi puis Dr. V. C'est tellement bon que c'est cette version-là qu'on a choisie pour mettre sur le deuxième album de notre groupe qui s'appelle Off and Back to the Future. C'est le nom de l'album. Non, c'est ça.
C'est très cool. D'ailleurs, cet épisode-là.
Oui, c'est ça. Off and Back to the Future.
15 secondes de nostalgie. C'était un épisode qui avait moi, toi, Dr. V puis Super Dave. On se racontait des aventures de route, de show, de gig, d'affaires à coucher dehors.
Notre véhicule musicien.
Il y a des affaires que je trouverais probablement cringe si moi-même je le réécoutais l'épisode. Mais en tout cas, il est encore là. Fait qu'à le ouais,
si vous voulez entendre nos pires anecdotes dans notre vie de musicien, notre expérience de musicien, ainsi que cette toune-là qui est super bonne. Je dis pas ça parce que c'est mon band, mais elle est super bonne.
Ouais, c'est très cool. T'as un bel arrangement, des bons textes, une bonne toune.
Oh, oui, le texte de Dr. V est écœurant là-dessus. Fait que allez voir ça sur YouTube, Ton Jardin. Poutine rapide, Martin, pour oui, terminer.
Poutine rapide, ben regarde, je vais la faire à l'envers. J'ai envie de mélanger les affaires.
Ah, amuse-toi.
Je me sens de même. Ben là, tu sais, vous voyez, on parle des affaires d'anciens shows puis de trucs de même. Ben ça, c'est un des avantages que ça a d'être un deep staker, de se rendre sur patreon.com/crachoir, parce que dans un des épisodes du deep stake, dans les pauses qu'on prend dans le montage vidéo, ben c'est la toune justement que je mets. Fait que c'est plein d'affaires. Tu voulais entendre de la Dubuque aussi, le band à Frank avec Nini, il y en a aussi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Vous vous rendez sur patreon.com/crachoir. Puis là, ben vous allez faire partie de notre communauté. Ça vous donne accès au fridge ou ce qu'on appelle la chambre froide. Ça vous donne accès à les épisodes du Deep Steak en vidéo et en audio aussi pour nous traîner partout. Et c'est une super belle communauté. On a eu un get-together, encore une fois, en fin de semaine, toute la gang sur Zoom. Ça a fini aux petites heures du matin, on a du fun, on ventile, on fait des watch-alongs, on regarde des niaiseries, on en dit, on rit, on met des backgrounds virtuels dans Zoom, super niaiseux, puis on a du fun, puis on change des idées comme ça. Fait que patreon.com/crachoir, allez voir ça, tout va être expliqué. Et l'affaire la plus importante à se rappeler de ça, c'est que c'est totalement rétroactif. Donc, si t'abonnes demain, t'auras pas juste ce qu'on fait à partir de demain dans le futur. T'as toutes les conneries qu'on a faites, et même Frank qui fait manger des vidanges à sablon.
Non, en fait, c'est le contraire. C'est qu'on avait fait... Ouais. Nini, pour ceux qui ne savent pas, c'est, elle a déjà co-animé le crachoir avec moi, puis elle avait fait un appel aux abonnés sur Facebook. Ouais. Quelle recette bizarre, genre de femme enceinte, vous mangez, puis ils nous ont envoyé toutes sortes d'affaires, puis honnêtement, moi, je pense que là-dedans, il y en a juste qui ont juste inventé des affaires les plus dégueulasses possibles pour nous faire manger de la stiffie de merde. Puis c'était il y avait des sandwichs banane beurre de peanut, croton, confiture, je me rappelle plus de tout, mais c'était dégueulasse. Yeah. Vous avez ça en vidéo, et d'ailleurs, c'est la seule fois que, parce que le show s'appelle le crachoir. Le crachoir, dans le milieu de la radio, un crachoir, c'est un micro. Passe-moi le crachoir, ça veut dire donne-moi le micro. Mais il y a un crachoir physique pour vrai dans le studio. Et c'est la seule fois où il a vraiment rempli sa fonction première. Et on a craché dedans. Hey, regarde, banane beurre de peanut. Là. Non, c'était pickle, ouais, sandwich de pickle beurre de peanut.
Ça existe, ça, là.
Oui, oui, non, c'est ça. Banane, beurre de peanut, ça, c'est bon, tu sais. Non, c'était pickle, beurre de peanut. Je peux-tu vous dire que ça n'a pas séjourné longtemps dans mon mange-patate, là? Ça s'est ramassé en crachoir assez vite. Donc, si vous voulez vous lever le cœur un petit peu, allez voir ça.
Bon, ben voilà. Fait que patreon.com/crachoir, il y a deux niveaux. C'est super bien expliqué. Fait qu'allez voir ça. Deuxième affaire, bien évidemment, si vous êtes en train de nous écouter sur radioh2o.ca où nous sommes en exclusivité tous les dimanches à 20h, ben, on vous dit un gros merci. Et sachez que vous pouvez ne rien manquer de tout ce qu'on fait simplement en vous y abonnant au moyen de votre application de podcast préférée, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android, tel que Frank vous l'a mentionné également tantôt. Je trouve important de renchérir là-dessus, particulièrement ce soir, parce que dans le live d'après-show, donc dans quelques minutes, on va avoir notre chum Nick dénommé des Illuminés du Québec, puis on va essayer de faire un peu différemment des lives habituels. On aimerait ça avoir l'input d'une autre personne qui tient une page, qui a encore plus de monde que nous autres, qui a encore plus dans l'actualité que nous autres à certains égards, puis de voir comment est-ce que lui, il va là-dedans, puis tout ça, ça va être super cool. Nick, c'est un super bon gars, fait qu'on va avoir du fun. Venez nous rejoindre, c'est sur les pages Facebook, Ménage du Dimanche et le crachoir en simultané. Donc, mais je vous invite par contre à c'est une affaire importante, Frank, parce qu'on le dit jamais. Puis des fois, moi, je me fais faire des commentaires. C'est en simultané sur les deux pages, c'est vrai. sauf que la modération se passe sur la page ménage du dimanche. Ouais. Donc, celle du crachoir, c'est pas qu'on veut pas vous y allier, c'est qu'il va probablement avoir un petit peu moins de gens. Fait que si vous mettez des commentaires, c'est plus long.
Puis on les voit moins aussi. On les voit moins aussi. Vous avez plus de chances de nous rejoindre sur ménage du dimanche, puis les boudins sont évacués de façon assez rapide et expéditive.
Yes, fait que venez nous joindre, venez-vous-en avec nous autres. Si vous avez des questions pour Nick aussi, ça va être l'occasion rêvée. Fait que moi, je vais peut-être agir un peu plus à titre de modérateur puis driver ça un peu, mais on va avoir du fun, c'est ça l'objectif. Fait que l'heure devrait déjà vous avoir été communiquée, donc venez nous rejoindre, c'est tout de suite après le show. Ça fait pas mal le tour, Frank. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu nous sers cette semaine, parce que j'ai vu dans le pacing du show, j'ai vu quelque chose qui m'a mis le feu. Là, je veux que tu m'expliques pourquoi je l'ai et si j'ai raison de l'avoir.
Est-ce que c'est la phrase « Mamma mia on a leash » qui t'a choqué?
Non, ça m'a pas choqué. Mettre le feu dans le sens, ça m'a allumé. Ça m'a, j'ai hâte de savoir ce dont il en retourne.
Bon, c'est pas une toune de BDSM, « Mamma mia on a leash ». C'est, c'est la contraction... ou même, on peut dire ça, l'amalgame de deux titres de chansons, soit Mamma Mia, du célébrissime et légendaire groupe disco ABBA, qui, attention, je vais le dire une fois, puis je leur dirai plus jamais, j'aime ça, ABBA. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir coupable. Puis je suis en amour avec Agnetha Fältskog depuis que j'ai 5 ans, depuis que j'ai réalisé que j'étais hétérosexuel. C'est grâce à elle, je l'en remercie, elle m'a éveillé sexuellement quand j'avais 5-6 ans. Agnetha Fältskog, la belle blonde de ABBA. Et il partage la vedette dans ce mash-up avec, attention, Korn. Ça fait que c'est spécial. C'est la Korn, c'est la toune Freak on a Leash. Donc ça donne Mamma Mia on a Leash. C'est, dans votre tête, ça marche pas, mais je vous jure que dans vos oreilles, dans les prochaines minutes, ça va fonctionner très bien. C'était le crachoir, épisode 134, cause valable. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A cheat for me to lay. Something takes a part of me. Cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from grace. Something takes a part of me. Something.
membre de la famille H2O Web Media.